1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Bonsoir, c'est Louna Abidar.
Bonsoir, je suis Marion Van Rintergem.
Ping Pong, la culture sans limite. Ping Pong.
Ce soir, une table de ping-pong en forme de paradoxe avec une actrice agressée pour avoir outragé la femme marocaine et une journaliste qui accompagne le récit symbole de cette femme, symbole de tous les outrages, avec Loubna Abidar, rebaptisée Abidar Qatar, Bidar la dangereuse, exilée en France après une ultime agression à Casablanca le 6 novembre 2015. C'est publié au Stock,
et avec... chez Stock. La journaliste et grand reporter au journal Le Monde, lauréate notamment du prix Albert Londres, Marion Van Rintergem, partenaire de Hammam et co-auteur de ce récit autobiographique de Loubna Abidar, publié donc chez Stock, cette dangereuse.
Mais tout de suite l'essentiel de l'actualité avec vous, Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir. Le Royaume-Uni sous le choc après l'agression mortelle aujourd'hui d'une députée du Parti travailliste, Jo Cox, 41 ans, a été tuée par balle à Birstall, dans le nord de l'Angleterre. Son agresseur présumé a été arrêté. Il s'agit d'un homme de 52 ans qui aurait crié « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord. La victime, Jo Cox, était une militante pro-européenne, hostile au Brexit. L'enquête devra dire si elle a été tuée en raison de ses convictions politiques. En attendant, la campagne du référendum a été suspendue. C'est dans une semaine maintenant que les Britanniques diront s'ils veulent ou non rester au sein de l'Union européenne. Barack Obama à Orlando ce soir pour rendre hommage aux victimes de l'attaque djihadiste du week-end dernier dans une discothèque gay, 49 morts et 53 blessés selon le dernier bilan. Le président américain veut manifester le soutien du pays à la ville d'Orlando, mais aussi à toute la communauté LGBT. Il sera accompagné de son vice-président Joe Biden. Ce matin, le directeur de la CIA, John Brennan, a lancé une mise en garde de très clair, malgré ses revers en Irak et en Syrie, l'État islamique conserve ses capacités d'attentat terroriste en Occident. En France, les syndicats de police affirment qu'au moins une centaine de policiers ont été blessés mardi lors de la manifestation parisienne contre la loi travail qui a dégénéré. La CFDT parle même de 211 blessés. Les syndicats reprochent à la préfecture de police d'avoir minimisé les chiffres en limitant le nombre de victimes policières à 28. Hier, Manuel Valls et François Hollande avaient menacé la CGT d'une interdiction de manifester si la sécurité des biens et des personnes n'était pas assurée. Nous y reviendrons à 22h avec notre invité, le député socialiste Philippe Doucet, proche de Manuel Valls. Les négociations sur l'assurance chômage ont échoué. Les partenaires sociaux ont acté leur désaccord. Aujourd'hui, la taxation des contrats courts explique en partie cet échec. Réclamé par les syndicats, il est rejeté par le patronat. Le MEDEF qui dénonce le dogmatisme des syndicats dans la négociation. La CGT, au contraire, pointe la responsabilité des patrons. Conséquence, le gouvernement va proroger la convention d'assurance chômage actuellement en vigueur. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, assure que tous les demandeurs d'emploi continueront à percevoir normalement leurs allocations. La météo demain, temps variable de la côte aquitaine à la frontière belge. Sur le reste du pays, un ciel d'averse, sauf sur les régions méditerranéennes où le soleil s'imposera. Les températures maximales toujours fraîches de 17 à 21 degrés du nord au sud jusqu'à 25 degrés dans le sud-est. 19h, presque 4 minutes sur France Culture. Zoé Sfès, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Zoé, à 19h30, le sommaire de votre journal de la culture.
Eh bien, dans le dossier du jour, on parlera des intermittents du spectacle. Vous l'avez dit, la négociation sur l'assurance chômage a échoué au niveau interprofessionnel, mais la ministre du Travail a indiqué que l'accord passé entre les professionnels du spectacle en avril dernier serait bien transcrit dans la loi. Le cas des intermittents, pour le moment, semble donc réglé. Merci Zoé. Tout de suite, nous partons pour Much Love de Nabil Ayouch, le film déclencheur du livre que nous détenons aujourd'hui dans nos mains.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping Pong.
Mais alors, t'étais où, ton ami, du temps?
Tu me remarquais?
Mais t'es très belle. Non, je l'ai.
Non, je t'attends.
Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe?
Il passe à rien.
Ça fait un mois qu'on se téléphone, on n'arrive pas à se voir.
Mon cher, je t'ai dit que j'ai des problèmes.
Des problèmes?
Mon frère, de nouveau, il se drogue, il n'a pas envie de travailler. Ma mère, elle devient malade. Et tout ça, ça retourne vers moi.
On va l'aider, ton frère. T'as besoin d'argent.
Pour pourquoi tu me parles toujours d'argent?
Merci.
Bonjour, monsieur. Madame, bon appétit.
Merci.
Une seule moi, moi. Prends soin de moi.
Je prends pas soin de toi?
Non. Chaque fois, il y a ta femme et ta fille ici, tu m'oublies.
Mais non, la dernière fois, c'était les vacances. J'ai besoin de voir ma fille. Elle me voit pas souvent. J'ai dû lui parler. Ma femme, je m'en fous, mais c'est avec toi que je veux vivre.
Si, dans ce film de Nabil Ayouch, Much Love, ovationné à Cannes l'an passé, ce qui a fait scandale et entraîné le déchaînement de haine et de violence à votre égard, Loumna Abidar, c'est d'abord la scène qui suit celle qu'on vient d'entendre, une scène d'amour et de sexe avec Carlo Brandt qui joue un client français énamouré par votre personnage, Noah, une jeune prostituée. On entend cependant dans le dialogue qu'on vient d'écouter quelques-uns des éléments vrais de votre vie, telle que vous la racontez dans ce récit autobiographique, donc La Dangereuse. Il y a à la fois ce mariage, entre guillemets, avec un homme plus âgé, et puis les hommes, en l'occurrence, c'est pas votre frère, comme le dit votre personnage, mais votre père, drogué, et qui a longtemps vécu à vos crochets.
Oui, c'est pour ça que j'ai accepté ce film. Votre question, elle est très forte, je n'ai pas attendu une question pareille. Oui, c'est vrai, j'avoue que j'ai défendu le film déjà avant le livre parce que on est toutes la même chose. On vit toute la, soit riche, soit pauvre, toutes les femmes dans le monde musulman et dans le monde arabe, on vit dans l'hypocrisie, on vit trop des problèmes qu'on se cache derrière la religion. Ils nous obligent à être des objets. Et dans la vie, c'est une autre réalité et c'est vraiment très difficile. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce livre, pour confirmer ce que j'avais à dire dans le film et confirmer toute la parole que j'ai portée depuis la sortie du film jusqu'à mon agression et jusqu'aujourd'hui, quoi.
Et précisément, cette parole que vous portez, c'est que vous êtes la reine des putes. Autrement dit, la reine des actrices. Parce que, à la fois, ce film, que vous avez senti qu'il pouvait entraîner d'immenses tourbillons et d'immenses violences à votre égard, mais vous avez aussi senti, sans doute, que c'était un très grand rôle que proposait Nabil Ayouch, et donc qui vous permettrait de révéler à tout le monde que vous étiez la plus grande des actrices marocaines.
Oui, j'ai rêvé d'être la plus grande pute qu'on ait dans le monde entier parce que le mot actrice, c'était impossible chez nous. Et toujours ma grand-mère, elle me disait sur les actrices que je voyais à la télé, tellement qu'elles étaient belles, elles étaient libres et beaucoup de choses différentes. Pas comme les femmes que j'ai dans la maison, dans mon entourage. Ma grand-mère, elle me dit, il faut pas les regarder, ce sont des putes qui vont aller à l'enfer. Et au fond de moi, j'aimerais bien, même si j'ai vu à l'enfer à la fin, c'est pas grave, mais je voulais être la même chose.
Et lorsque vous révélez vos ambitions d'actrice ou que vous avez envie de voir un film, on y reviendra, il y a votre oncle qui vous lance entre autres, toi Loumna, tu ne seras pas une femme normale, tu ne connais ni la peur ni la honte, c'est quand même scandaleux. Marion van Rentergem, vous qui co-signez ce livre avec Loumna Abidar, donc La Dangereuse aux éditions Stock, vous accordez une place importante au corps de Loumna Abidar, qui est un corps à lire comme un livre d'histoire d'une femme d'aujourd'hui. On voit qu'on dépasse aussi les questions du monde arabo-musulman. Vous essayez de l'étendre. Comment vous l'avez lu, ce corps, et vous qui avez souhaité le mettre en scène dès le début dans les avant-propos, parce qu'effectivement, comme Martin le rappelait, vous démarrez sur une scène de hammam. Est-ce que c'est pas un peu la confession d'un corps que vous avez recueilli?
C'est plaisir d'avoir des lecteurs subtils et avec des belles questions. C'est vrai que cette scène du hammam était extrêmement importante dans ma rencontre avec Loumna, qui a commencé normalement dans des cafés à Paris. On a parlé. Et le moment vraiment important sans lequel, je pense, le livre n'aurait pas pu s'écrire, en tout cas de cette manière aussi intime et aussi vraie, c'est que je l'ai accompagnée à Marrakech. Il faut préciser qu'elle était déguisée, c'était quasiment clandestin. Elle y était pour passer des fêtes en famille, mais je l'ai rejointe. Et quand elle ne voulait pas sortir de chez elle, je l'ai forcée parce que quand même, moi, à Marrakech, j'avais un peu envie d'avoir l'ambiance de la rue. Donc, je l'ai forcée à sortir un petit peu et elle s'est mise une perruque, une casquette Nike, des grosses lunettes noires, etc. pour ne pas qu'on la reconnaisse. à la fois par peur d'être agressée, mais aussi parce qu'elle ne supporte plus le regard de ces hommes sur elle et d'entendre chuchoter, d'entendre des messes basses, de sentir de la haine et de l'agressivité.
Ces millions d'yeux
qui se braquent sur elle et qui sont dans la médisance. Et la diffamation. Et donc, je l'ai accompagnée. Et puis, on est allé à ce cérémonial typique marocain. On est allé au hammam. Alors, j'aimerais que Loubna prononce, parce que j'adore quand elle prononce hammam. Vas-y.
Hammam.
Au hammam. Donc, nous sommes allés au hammam. Et c'est pas du tout un hammam comme on a l'habitude de le voir, même à la mosquée de Paris ou dans les spas chics. C'est vraiment le bain populaire où on prend tout un barda avec soi, les bassines, les tongs, les savons, les tas de lehenné, enfin des machins pour se gratter, pour se frotter, etc. Donc déjà la préparation prend beaucoup de temps. On arrive avec nos bassines. Et là, donc, c'est une espèce d'ambiance assez formidable où ça braille beaucoup. Il y a du bruit, il y a la vapeur, l'eau, les grosses dames un peu ridées et toutes habillées, toutes mouillées, mais malgré tout, toutes habillées avec leur voile sur la tête qui nous arrose, qui nous frotte le corps, etc. Et donc, c'est vrai que Loubna et moi, on s'est retrouvés toutes nues, comme c'est normal de l'être dans ce lieu, côte à côte, à se faire gratouiller et ça crée forcément une intimité de plus. On a parlé et j'ai pu voir sur son corps ses cicatrices. Et c'est vrai que ça m'a énormément frappée. Je savais qu'elle en avait, mais voir ce corps marqué, alors qui était aussi un petit peu arrangé à force de chirurgie esthétique, mais comme elle dit, je n'ai pas voulu toutes les enlever parce qu'en même temps, c'est mon histoire et que j'en ai besoin.
Mais entre autres, ce hammam, c'est un lieu où on va se laver des hommes et de ce qu'ils nous font. Ce qu'ils font subir aux femmes. C'était important aussi de démarrer dans ce lieu symbolique, Loubna Abida.
Non, moi, je dis toujours, le hammam, c'est pour enlever la saleté des hommes. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de femmes. On s'écoute entre nous dans le hammam. J'écoute toutes les histoires des femmes. Et la majorité de ces femmes, elles sont là pour laver 3-4 enfants. Elles ne sont pas du tout heureuses. Elles ont devenu grosses très vite après le mariage. Et ça parle entre elles. Et je sais que 80% de ces femmes, elles ne sont pas heureuses. Elles font des choses qu'elles n'étaient pas prêtes. Et voilà, pour moi, de parler au hammam et la ramener au hammam, c'était très important parce que j'avoue que ça m'arrive des fois d'aller 2-3 fois dans le hammam par semaine. Parce que ça me nourrit les histoires de ces femmes. Depuis quand j'étais petite, j'ai rencontré les prostituées. Le départ, c'était dans le hammam.
Qui sont les héroïnes de Much Love. Et au départ, vous êtes conseillère artistique sur le film. Hein. C'est vous qui les avez rencontrées, qui avez accompagné le scénario.
Voilà, quand j'étais toute petite, c'était vraiment dans le hammam où j'ai rencontré la première histoire, la première discussion entre une maquerelle et les deux petites filles. Pour moi, c'est une clinique psychiatrique des femmes marocaines, c'est ça.
Là, on parle du corps, on parle du hammam, mais vous parlez aussi de l'enfance, Loubna Abidar. En l'occurrence, la question du corps, dans votre récit La Dangereuse, coécrit donc avec Marion Van Reterghem, cette question du corps, elle commence à la naissance. Naître fille, c'est une catastrophe, selon vos propres mots. Et il y a ce récit de votre naissance où on vous force à crier, parce que vous êtes un bébé qui naît sans violence, sans crier, et ça inquiète tout le monde, on vous force à crier. Est-ce que c'est pas, d'une façon peut-être symbolique, un élément clé pour comprendre votre statut, votre parcours, et peut-être celui de toutes les femmes autour de vous, qu'on vous force toujours à crier? On vous dit « ferme ta gueule », ton seul droit, comme le policier dans Much Loved, t'as le droit de fermer ta gueule, et en même temps, on laisse jamais les femmes tranquilles. Vous vous êtes toujours senti forcé, obligé de crier pour être entendu?
Toujours. Toujours, vraiment. Mon enfant, j'ai toujours crié pour avoir un pantalon. J'ai toujours crié pour avoir des petites choses basiques. Et j'ai toujours crié. Je suis aujourd'hui dans ma vie, je crie tout le temps pour m'écouter.
Et pourtant, tu es très calme.
Et voilà. Et dans ma vie, vraiment, je suis quelqu'un de très, très calme. Je supporte pas la musique très forte. Je suis quelqu'un vraiment qui vit dans la paix. Je suis toute seule dans mon coin. Mais je suis, voilà, c'est depuis le premier jour que je sortais de le ventre de ma mère. Ils ont me forcé à crier.
Je vais vous dire, avec le film d'animation, ce qui me plaît, c'est qu'au moins, il n'y a pas de confusion possible entre fiction et réalité. Non, je précise, parce que ça n'a pas l'air d'être très clair pour tout le monde encore. Hein. Je rappelle qu'une actrice s'est récemment faite agresser parce qu'elle jouait le rôle d'une prostituée. Donc à ces gens-là, je voudrais rappeler un concept de maternelle. La fiction n'est pas la réalité. Ce que je vois sur l'écran me semble vrai, mais il n'est pas vrai. Ça ressemble. Voilà. Et plus on joue bien, plus on y croit. C'est ça la difficulté, hein. Mais le méchant du film est sans doute très gentil dans la vie. Hannibal Lecter, par exemple, Anthony Hopkins ne mange pas des cervelles humaines. Non, Gérard Depardieu n'a pas découvert l'Amérique. Non. Il a découvert la Russie, donc ça n'a rien à voir. En plus, tu vois, des fois, il y a des pièges. Très attention. Voilà, que ce soit très clair. Et au-delà de ce concept très simple, un second encore plus simple, on ne tape pas les actrices. Et on ne tape pas non plus les prostituées, étrangement. On ne tape personne, en fait. Alors, je sais que c'est un concept un peu segmentant, mais je le tente. Voilà. Lubna Abidar, we love you very much.
L'hommage de Florence Foresti, nous sommes au César cette année. Vous êtes nommée en lice parmi les meilleures actrices donc, du cinéma français aux côtés d'Isabelle Huppert. C'est quelque chose, vous le rappelez Marion Van Rentergem, dans les avant-propos du film. Il y a surtout, du livre qui part de Much Loved et de l'expérience qui a déchaîné donc, cette haine juste voilà. Pour résumer, contre vous, jusqu'à donc Casablanca, où vous êtes embarqué dans une voiture par des hommes qui vont vous agresser et vous frapper, entre autres, à l'arcade et au nez. Il y a cette idée de cours de maternelle pour expliquer la différence entre la réalité et la fiction. Mais est-ce qu'au fond, il y a un moment où ce n'est pas justement ce qui s'est opéré dans votre vie par rapport au film ? Lorsque vous vous retrouvez à porter une burqa dans votre propre pays, à vous enfermer vous-même pour pouvoir vous échapper. Est-ce que finalement, vous n'avez pas ressenti une terrible correspondance qui était en train de se faire entre le film Much Loved et votre vie, Lubna Abidar ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Et aussi, j'étais obligée à part à mentir et mettre une burqa et supporter ce truc horrible parce que je vous jure de mettre une burqa à 40 degrés à Marrakech, c'est pas évident, c'est vraiment une chose horrible. À part ça, à part la peur, à part je me sentais coupable, je me sentais très sale, je me sentais que tout le pays est contre moi, tous les artistes ils étaient contre moi, j'étais obligée de mentir. Moi qui j'aime pas mentir et j'aime pas les gens qui mentent, j'étais obligée de mentir pour cacher ma fille et protéger mon mari et dire que je ne suis pas mariée et commencer de jouer un jeu vraiment un petit peu c'est pas moi et c'est ce moment où j'ai décidé de partir loin jusqu'à les choses qui ça se calme. Après j'ai eu mon premier prix de la meilleure actrice, le deuxième, le troisième, j'ai retourné avec amour au Maroc, j'ai dit voilà, maintenant les gens qui n'ont pas compris, ils vont comprendre que des prix pareils on donne pas pour des actrices de porno, on donne pour des vraies actrices. Voilà, je retourne. Mais malheureusement, j'ai retourné, c'était rien changé, les gens ils étaient voilà, mais c'était pire. J'ai retourné. C'est là où j'apprends le mot Mossad. J'ai appris beaucoup des mots.
Oui, on vous accuse d'être un agent infiltré du Mossad.
C'est impossible des choses.
Et on réclame la chambre à gaz pour Lubna Abidar. Notamment.
Voilà, des choses impossibles. Ils ont rentré les États-Unis, Israël, des choses qui n'ont rien à voir. Moi, je suis une simple actrice. Je suis une femme qui j'ai des choses à dire, ni moins ni plus. Et c'est pour ça que j'étais obligée de partir et c'était impossible de rester.
Mais lorsque, en plus, vous vous présentez dans une clinique pour être soignée après cette agression à Casablanca, lorsque vous allez au commissariat, vous vous retrouvez dans la situation de Nora, ce personnage de Much Loved, c'est-à-dire avec des traitements comparables de Nora et de ses condisciples, les autres prostituées avec qui elle travaille. Et là, vous avez cette phrase qui est « J'ai l'impression de rejouer une scène de Much Loved quasiment à l'identique lorsque vous êtes au commissariat ». Comment ça se passe à ce moment-là dans votre tête où, finalement, finalement, Much Loved, c'est la meilleure des choses qui vous soit arrivée, mais aussi la pire.
J'avoue qu'à un moment, j'ai monté dans un taxi, j'ai commencé à rigoler. C'était après le premier hôpital, le deuxième, j'arrivais dans la commissariat, j'avais du sang partout, j'avais peur parce que je savais pas qu'est-ce qui se passait dans mon visage. Et je remontais un moment dans un taxi et j'ai commencé à rigoler toute seule. Et j'ai dit vraiment, le film, ça se refait. Et à la fin, quand je rentrais chez l'ami pour dormir, aussi, j'ai commencé à dire, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, ma famille, c'est comme la famille de Noura aussi, la même chose. J'étais jetée avec une haine et beaucoup de choses. Et quand j'ai eu mon deuxième prix, ils ont fait une fête au Maroc incroyable pour moi et tout ça, machin. Tu vois, les choses bienvenues, mais les choses de mal. Quand les moments difficiles, ils étaient pas là. Noura aussi, ils acceptent leur argent, ils acceptent beaucoup de choses d'elle. Mais en fait, c'est ça. On est toutes des Noura au Maroc, seulement chacune avec un visage et un sourire différent.
Voilà. Oui, on est toutes des Noura, ça veut pas dire on est toutes des putes, mais ça veut dire on est toutes des femmes qui aspirent à la liberté et à la tranquillité.
Si, on est toutes des putes. Justement.
Mais oui, ça commence comme ça le livre, hein, c'est vrai.
C'est un titre qu'on avait failli, et puis on s'est dit que le deuxième degré ne passerait pas forcément de manière évidente. Mais justement, avec Loubna, on s'est dit, puisque elle croyait qu'être actrice, ça s'appelait, elle pensait tout naturellement qu'on disait une pute, puisque sa grand-mère lui disait, regarde pas ça, ce sont des putes. Donc elle s'est dit, moi, je veux être une pute célèbre dans le monde entier. Et donc on s'est dit que voilà, comme être pute, selon les gens de cette société, c'est simplement être une femme libre, fumer des cigarettes, sortir avec des garçons, aller au cinéma, être normalement dans la rue. Loubna se dit, si c'est ça être pute, moi je suis fière de l'être. Et moi j'ai dit, la victoire qu'on obtiendra, ce sera d'obtenir de l'Académie française que pute devienne un mot positif et que, voilà, on dise, oh mais cette fille, c'est une pute, pour dire elle est extraordinaire.
Loubna Abida, on est entre fiction et réalité qui sont mêlées, qui sont entremêlées, qui sont mélangées jusqu'à la folie depuis que vous avez tourné ce film Much Loved avec Nabil Ayouch. Précisément dans ce film, pour préparer le film, vous avez personnellement infiltré et vécu une soirée avec des Saoudiens qui a inspiré une scène clé de Much Loved. Oui. Mais cette scène, vous le précisez dans La Dangereuse, donc le récit que vous avez écrit avec Marion Van Rentergem, ce récit de cette soirée avec les Saoudiens ne dit pas toute la vérité, car la réalité aurait été trop scandaleuse. Et on sent la même chose dans votre récit, dans cette autobiographie. Vous dites pas tout, parce que tout dire, ça aurait été trop scandaleux.
Oui, c'est vrai. Il y a par exemple, je parle d'une petite chose, par exemple dans des soirées pareilles, il y a des mamans qui ramènent leurs filles de 2 ans, 13 ans, 14 ans, pour que ces hommes, ils prennent leur virginité en échange avec de l'argent. Et des fois, c'est la fille, elle est très belle, elle est grosse, blanche, elle a les yeux grands et les cheveux noirs, elle peut arriver jusqu'à un appartement. Ça, par exemple, c'est scandaleux, mais c'est pas l'État, c'est pas la police, c'est la maman, c'est la famille, tu vois, Voilà, c'est une maman musulmane qui fait le ramadan, qui fait la prière 5 fois par jour, mais elle ose faire des choses pareilles et se cacher derrière un voile et dire « je suis une musulmane ». Voilà, c'est ça une petite chose, mais il y a des choses incroyables, il y a des choses pas possibles. Il y a ces hommes, n'importe quel fantasme qu'ils peuvent imaginer ou faire, ils viennent au Maroc pour le faire. Ça veut dire, il y a beaucoup de filles qui étaient mortes parmi des chiens parce que les hommes, ils voulaient qu'ils fassent de l'amour avec les chiens. J'ai des histoires et j'ai des preuves et j'ai des choses incroyables. Voilà, tu peux pas ça ni l'écrire ni le mettre dans un film de cinéma parce que c'est trop fort, c'est impossible.
Et là, on parle des Saoudiens, mais il y a aussi des touristes français régulièrement dans la réalité, comme dans le film de Nabil Ayouch.
Bien sûr, il y a des Européens en général, mais seulement là, on explique ça dans le film parce que Noura, à un moment, il dit je préfère les Européens parce qu'ils m'invitent au restaurant et des fois ils m'offrent des roses. Tu vois, ça reste encore un petit peu le respect de la femme, même si une prostituée, il y a un peu de respect.
Même s'il y a une scène dans Much Loved avec des Européens qui se comportent pas très bien quand même dans
mais,
une discothèque.
Mais par rapport à ce qu'ils font les hommes, le monde arabe, ça se passe en privé. voyez, ça se passe dans la rue, ça c'est, et c'est pas tout le monde. Mais là, les hommes, le monde de golf, c'est un petit peu, sont un peu sauvages, ils ont beaucoup plus d'argent, et ça se passe en privé, dans des grands espaces, ils ont de la sécurité, ils ont de la police derrière eux, c'est vraiment beaucoup plus dangereux. C'est pas dans des hôtels, ou dans des discothèques, ou dans la rue. C'est vraiment un petit peu plus lourd, et ça passe des choses vraiment, parce qu'il n'y a pas de limites, il n'y a pas une loi, il n'y a pas la peur. Et là, les filles, j'ai rencontré beaucoup des prostituées qu'ils m'ont raconté. J'étais dans la soirée. Après le film, j'ai pas lâché. J'ai vu beaucoup des commentaires. J'ai parlé avec beaucoup des filles qu'ils m'ont contacté après le film pour des conseils, pour changer leur vie et tout. Mais vraiment, c'est scandaleux. Il passe des choses très fortes.
Et justement, c'est vrai, le vrai scandale, hein, c'est celui-ci, c'est cette hypocrisie qui est dénoncée dans le livre donc, que vous co-signez avec Marion van Rentergem, cette hypocrisie aussi du viol familial, tout en essayant de conserver la virginité. Aujourd'hui, vous dites dans le livre, je ne vais pas essayer de changer le monde, mais au moins de changer cet ordre des choses-là. C'est-à-dire que vous avez décidé, au-delà de ce livre et de ce film, de vous engager depuis Paris maintenant où vous résidez dans cette cause concrètement, qu'est-ce que vous programmez
J'ai beaucoup de films. Il y a un film qui ça va être fait cette année déjà avec une jeune réalisatrice marocaine française et Camilia Montasser, vraiment le scénario, ça appuie sur des choses pareilles. Tu vois, je fais des autres choses en parallèle. J'ai deux autres films qui n'ont rien à voir, mais je veux essayer au moins une ou deux fois par an à faire un film ou deux qui ça va déranger, ça va donner des claques, ça va ouvrir des débats. Et j'ai pas peur.
Des films qui ouvrent le cerveau, comme vous le dites, hein, justement, voilà. Dans ce livre.
Marion van Rentergem, à propos de mettre des claques et d'ouvrir les yeux, c'est le cas à la lecture de La Dangereuse, mais on parlait à l'instant de cette réalité trop scandaleuse. Est-ce que vous avez justement pas fait le parti pris, en écrivant toutes les deux, d'une certaine retenue, d'une certaine pudeur, pour arriver à faire entendre les choses, parce que sinon, ça aurait été voilà, trop violent et trop brutal à propos de mettre des claques aux lecteurs qui n'auraient peut-être pas supporté, qui n'auraient pas voulu voir.
Absolument, mais ça c'est très important de le souligner et je pense que là aussi un des nœuds du livre c'est justement ce que vous disiez, ce que vous soulignez sur la question de l'hypocrisie et du mensonge qui est en fait vraiment le cœur de ce que Loubna veut dénoncer. Et il y avait un nœud de cette histoire que je n'ai pas découvert tout de suite. Elle me parlait des violences que lui avait faites son père. Elle me parlait du fait qu'il la torturait, qu'il se droguait, qu'il la forçait à aller chercher de l'argent pour lui trouver du shit, etc. Mais j'ai mis un petit peu de temps, je pense que ça devait être au hammam, après les cicatrices, qu'on en a parlé, à comprendre ce qui s'était vraiment passé. Ce qui s'est passé, c'est un viol quand elle avait 9 ans, on peut le dire. On ne l'écrit pas de manière aussi brutale dans le livre.
C'est le chapitre « Le premier homme ».
Voilà, c'est le premier homme de sa vie, et dans tous les sens du terme, hélas pour elle. Et donc, elle ne voulait pas qu'on l'écrive, cette histoire. D'abord, elle a mis du temps à me le dire, et puis elle ne voulait pas qu'on l'écrive. Et quand j'étais tellement stupéfaite quand j'ai compris ce qui s'était passé, elle m'a dit non, il y a ma fille, il n'y a pas question, elle a une petite fille très mignonne, très éveillée d'ailleurs, qui comprend beaucoup de choses de 7 ans maintenant. Elle avait 6 ans à l'époque. Et je lui dis, écoute, si on n'écrit pas ça, d'une manière ou d'une autre, on ne dit rien. Parce que c'est vraiment l'essentiel de ce mensonge qui repose sur la virginité des femmes, sur la frustration des hommes, la virginité des femmes, ce que raconte, je trouve admirablement, Kamel Daoud, bien qu'on le lui reproche. Et notamment sur...
Qui a écrit Meursault contre enquête et qui est en pleine tempête en ce moment en Algérie.
Voilà. Journaliste algérien.
Pardon, oui. Il se trouve que donc toute cette société repose sur le fait que les femmes doivent arriver vierges au mariage. C'est une sorte de commerce et d'obligation de la virginité. Et il y a une telle frustration qui naît de ça, parce que les hommes ne peuvent pas se fréquenter les femmes comme ils le souhaitent, etc., qu'il y a des viols familiaux en pagaille. L'histoire de Loubna est absolument répandue, notamment dans les milieux les plus pauvres etc. Et je me suis dit, si tu ne racontes pas ça, ce qui est arrivé, ce qui arrive aux femmes et ce qui est la matrice de tout ce mécanisme qui fait qu'on veut que les femmes soient vierges. En fait, elles ne le sont pas parce que les pères ou les oncles ou les cousins ou les frères les violent. Et puis après, on va faire de la chirurgie pour réparer les hymens, pour tout ça, pour mentir. Et on continue à dire qu'on est un bon musulman et on boit et on continue à dire que les prostituées n'ont pas le droit d'exercer leur métier. Et comme elle dit, le Maroc est un des premiers marchés du sexe pour les touristes du monde entier. Il faut casser ce mensonge-là. Et elle a vraiment très intelligemment et compris. Donc on a raconté ça sans le dire de manière brutale. Mais cette histoire du premier homme, je pense, est la clé de son histoire et de l'histoire des femmes.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture.
À suivre, toujours avec Lubna Vidar et Marion Van Rentergem, nous parlerons de cette dangereuse et de ses rêves d'actrice, de sa cinéphilie, de cinéma, de fiction, un peu plus dans la deuxième partie de cette émission.
Et tout de suite, eh bien, on va parler aussi des métiers du cinéma et de la fiction avec le journal de la culture de Zoé Sfez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin. Bonsoir Mathilde. Bonsoir mesdames. Bonsoir à tous.
Et bonsoir à ce chat qui est dans votre gorge.
Oui, il est vilain, il reste là, il est tapis dans l'ombre.
Zoé, ce soir, en effet, vous nous parlez dans votre dossier du feuilleton des intermittents et peut-être de son épilogue. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui avait lieu la dernière réunion de négociation autour de l'assurance chômage. Une négociation qui se solde par un échec, puisque le MEDEF a refusé d'augmenter les cotisations patronales dans un contexte contraint. Mais paradoxalement, cette journée marque une vraie bonne nouvelle pour l'intermittence, car la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a décidé de valider l'accord passé en avril dernier par les professionnels du spectacle qui satisfait tout le monde.
Oui, alors, petit rappel des faits, c'est toujours un dossier très technique, mais il est néanmoins très important. J'essaie de vous rappeler le contexte. En 2014, rappelez-vous, les intermittents entrent en lutte, ils bloquent une partie des festivals d'été, car le MEDEF, qui négocie avec eux leur nouvelle convention chômage, leur a donné des conditions encore plus dures. Le ministre du Travail d'alors, devant la crise, François Rebsamen, convient que les conditions de négociation au niveau interprofessionnel, donc entre syndicats de la globalité des métiers, sont vraiment trop dur et infécond dans ce qui concerne les intermittents. Il indique maintenant que les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage, qui sont donc relatives aux intermittents, seront maintenant négociées entre professionnels du spectacle. C'est une première, et non au niveau interprofessionnel, comme c'était le cas jusqu'aujourd'hui, que si un accord est trouvé, il devra ensuite être validé par les syndicats, mais que si ce n'est pas le cas, l'État pourra reprendre la main et agir directement par décret. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, parce que pour la première fois, au terme de plusieurs dizaines de réunions, les syndicats du monde du spectacle, donc salariés et patronat, ont trouvé en avril dernier un accord sur ces fameuses annexes de la convention chômage qui permettaient à la fois de faire des économies mais aussi de contenter tout le monde. Accord que le MEDEF, côté patronat, et la CFDT, côté salarié, n'ont pas voulu valider dans le cadre de la grande négociation plus large sur l'assurance chômage qui viennent d'échouer justement ces négociations aujourd'hui. Et la ministre du Travail, dans un communiqué paru juste en fin d'après-midi, acte, je cite, que le patronat a fait le choix aujourd'hui de l'échec. Elle indique qu'elle reprend la main sur le dossier des intermittents, qu'elle va faire appliquer ce fameux accord par décret. Une bonne nouvelle pour Denis Gravouille, le secrétaire de la CGT Spectacle, qui estime qu'il faut quand même néanmoins rester vigilant.
Nous avons pris nos responsabilités. La loi prévoyait pour la première fois que nous puissions négocier de façon spécifique les règles qui s'appliquent aux artistes et techniciens intermittents du spectacle. Et ça a été difficile, mais on est arrivé à un accord. C'est-à-dire que chacun a mis de l'eau dans son vin, les employeurs ont augmenté les cotisations patronales et nous avons à la fois obtenu des droits nouveaux, mais en même temps, on a accordé quelques concessions sur les allocations les plus élevées pour pouvoir les financer. Donc, on a eu une négociation loyale. Donc, maintenant, on va être très vigilant sur le fait que cet accord, puisque la ministre l'a annoncé, va être transposé intégralement et sans délai. C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas bouder notre plaisir par le fait que c'est la lutte qu'il a obtenue et une lutte unitaire depuis des années. Mais en même temps, on sait qu'on sera toujours en sursis parce que le MEDEF, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, va revenir à la charge et il faudra à nouveau se mobiliser. Mais c'est un point d'appui, c'est sûr.
Et du côté des employeurs du secteur du spectacle, Zoé, même satisfaction mesurée.
Oui, alors ce fameux accord dont je vous parlais, conclu en avril dernier, entre gens du spectacle, Il n'a pas été négocié par le MEDEF et non, il a été négocié par les patrons du spectacle. La FESAC, c'est la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de l'audiovisuel, du cinéma, fédération créée dans les années 90 finalement pour tenter de faire avancer les choses sur ce fameux dossier de l'intermittence qui traîne quand même depuis des années, où tout le monde est d'accord pour dire qu'on se comprend quand même beaucoup mieux quand on travaille dans le secteur. C'est Jacques Aubert qui préside la FESAC. Il est soulagé en tout cas aujourd'hui d'être fixé sur cette fameuse assurance chômage pour les annexes 8 et 10, mais il regrette évidemment que cet accord voit le jour dans un contexte aussi tendu.
C'est vrai qu'on était beaucoup regardé par rapport à notre possibilité de conclure ou de réussir cette négociation. Alors ce qu'on a réussi à faire, et je pense que c'est la clé du succès de cette négociation, c'est qu'on a réussi à préserver les droits des plus précaires et à faire des économies qui ne soient pas uniquement sur une certaine catégorie de population. Si vous voulez, on a travaillé très fortement à la signature de cet accord et que cet accord se trouve à s'appliquer, effectivement, c'est une bonne nouvelle. On peut regretter que ça s'applique dans un contexte où il y a un échec de la négociation interprofessionnelle. C'est un regret de négociateur et c'est un regret, entre guillemets, pour le dialogue social.
Alors cet accord, il va donc être transposé par décret. Alors pour des raisons techniques, il faudra attendre en gros début juillet pour voir comment cette transposition peut être faite. Peu ou prou, en gros, pour le début du Festival d'Avignon. Il est donc important pour la CGT Spectacle que cet accord soit bien transcrit dans la loi pour démarrer le festival sérieusement, puisque je rappelle qu'hier, les deux tiers des employés du Festival In d'Avignon avaient menacé de faire grève si aucune solution était trouvée.
Place au bref Zoé et direction la Tour Infernale.
Et oui, on ouvre avec ce concours international d'architecture lancé aujourd'hui pour transformer radicalement la Tour Montparnasse. Cette tour, si décriée quelquefois, mais qui en même temps appartient au patrimoine de la ville de Paris, va renouer avec une modernité qui était la sienne il y a 40 ans et qu'on a besoin de retrouver aujourd'hui, indique Patrick Abisséor, c'est le président de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse. En septembre, il y a 6 équipes qui seront retenues. Elles seront dotées de 120 000 euros pour travailler jusqu'à fin décembre sur des avant-projets le plus poussés. Le but, évidemment, de toute cette opération, c'est un, de permettre aux Parisiens de se réapproprier le lieu, mais bien sûr, avant tout, de désamianter la tour.
Le Parlement ukrainien a voté jeudi une loi imposant aux radios des quotas de chansons à diffuser quotidiennement en langue ukrainienne.
Et oui, loi symbole dans ce pays de l'ex-Union soviétique en conflit avec la Russie où la question linguistique est un enjeu majeur. Avec l'entrée en vigueur de cette loi qui doit être ratifiée par le président Petro Poroshenko, 25% des chansons diffusées par les stations de radio devront être en langue ukrainienne. La deuxième année, ce quota passera à 30%, puis à 35% la troisième année. Le texte de loi explique, je cite, que les événements de ces dernières années, dans une référence à l'élection de la Crimée par la Russie et au conflit avec les rebelles dans l'Est, ont clairement montré le lien entre le niveau d'utilisation de la langue ukrainienne dans l'espace public et le niveau de sentiment séparatiste au sein de la population.
5 grands groupes de radio accusent Fun Radio d'avoir gonflé ses mesures d'audience.
Et oui, c'est très sérieux, c'est un gros débat comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Energy Group, Lagardère, Skyrock, Les Indes Radio et Next TV accusent Fun Radio d'avoir gonflé ses chiffres en diffusant des messages sur les ondes pour que ses auditeurs mentent aux enquêteurs de Médiamétrie. L'animateur de la matinale Bruno Guillon, par exemple, a encouragé ces derniers jours ses auditeurs en cas d'appel, à répondre qu'ils écoutaient la station toute la journée et exclusivement celle-là. C'est de la triche, ça a une conséquence sur notre activité commerciale, a déclaré le patron de Next TV Radio, Alain Veil. C'est le plus grand scandale de l'histoire de la radio, a renchéri le patron de NRJ, Jean-Paul Baudécroux, qui dénonce des messages frauduleux constatés par l'huissier depuis septembre. Une centaine, Fun Radio dénonce une calomnie.
Merci Zoé, on vous retrouve tout à l'heure pour le disque du jour.
Ping pong. C'est sur France Culture.
Nous sommes de retour avec Lubna Abidar et Marion von Rentergem pour La Dangereuse, publiée chez Stock. Un livre où l'on apprend que pour Lubna Abidar, il y a deux films qui ont changé sa vie. Les Spice Girls, rien ne sera plus jamais comme avant après ce premier visionnage, mais aussi Le sixième jour de Youssef Chahine.
C'est le premier
jour. Comme l'âge d'Abu Gmir.
Nous avons dans cette réunion ou nous n'avons pas.
Hassan.
صديقة مش حسب
حسب ونص
يا عين على دجوز جنكيلي وتضحية أم حب بكش في بكش بعد عني مالك يا أختي مسروعة منه بيصيرك يوم تحتاجيله
أنا مش محتاجة لحد
لا بقى كلنا محتاجين لبعض الرجالة تعشميها ونقيها ورميها
Vraiment, je vivais 24 heures sur 24 avec Sadika. C'était devenu, j'avais perdu complètement mon identité. J'étais devenue cette femme-là. Et je l'ai vraiment vécue, cette femme. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que quand on fait un rôle de composition comme cela, on va au-delà de soi-même. On est plus, bien sûr, c'est moi qui l'ai joué, donc j'ai fait jouer mes émotions à moi, et ce que la vie m'a appris. Mais en même temps, j'ai vu la vision de cette femme qui est quand même différente de la mienne, de ce qui est Dalida, ce qui est Yolanda, la femme que je suis.
Dalida elle-même, dans l'un des trésors de nos archives, France Culture, le sixième jour de Youssef Chahine, tient une place importante dans ce livre qui est consacré à la vie de Loubna Abidar avant Much Love, avant les agressions. C'est la vie d'une femme que vous recueillez aussi, Marion van Rentergem. Au fond, est-ce que c'est pas aussi un livre sur ce que c'est que la vocation d'actrice et ce que c'est que d'essayer d'aimer le cinéma quand on est une jeune fille qui est née dans la Médina?
Donc je voulais préciser par rapport, quand vous aviez fait un petit résumé du patrimoine cinématographique de Loubna Abidar, c'est vrai qu'il y a Youssef Chahine et les Spice Girls, mais il y a avant tout Le Gendarme de Saint-Tropez, qui est quand même le premier film qu'elle a pu voir et aimer. Pourquoi ? Parce que cette petite fille, et c'est vrai que c'est très émouvant, c'est cet amour, cette fascination pour le cinéma, pour la salle noire, pour ce qui se passait, et ces films avec des belles affiches qui se passaient derrière la porte du cinéma qui était dans la rue qu'elle traversait pour aller à l'école. Et donc, il y a quelque chose qui rappelle un peu François Truffaut dans ce rêve de la salle de cinéma. Et elle a approché le cinéma par un marchand ambulant de cassettes qui lui vendait on appelait ça des cassettes à l'époque.
Des VHS. Ouais.
Des VHS,
C'est ça.
Des VHS à 5 dirhams, la loc.
Et il se trouve que la première qu'elle a pu voir, c'était Le Gendarme de Saint-Tropez. Donc ça, c'est quand même assez...
Mais Loubna Abidar, effectivement, c'est ça qui est intéressant. Il y a cette escapade, quand même. Vous allez voir les Spice Girls.
Spice World
à Casablanca. Il y a effectivement Le Gendarme de Saint-Tropez. Puis il y a ces cassettes que vous louez à 5 dirhams, mais que vous ne regardez pas, car, au fond, Youssef Chahine, c'est bon, vous l'avez vu, revu. C'était votre cinéaste de chevet. Vous connaissez votre Chahine par cœur. Quelle place il a eu dans votre vocation?
Non, mais Youssef Chahine, le jour de sa mort, j'ai jamais pleuré pour personne de mes proches, moi, dans leur mort. Et Youssef Chahine, j'avais la fièvre pour beaucoup de temps et j'avais trop mal parce que, je sais pas, dans mes rêves, si un jour je suis une actrice, je travaille avec Youssef Chahine. S'il n'y a pas Youssef Chahine, il n'y a pas de cinéma. C'était tellement comme ça dans ma tête. Et Youssef Chahine, il m'a fait beaucoup rêver. Et il m'a fait aimer le cinéma, il m'a convaincre de penser à beaucoup de choses. Même après ses interviews, sa parole, son caractère et tout, autant d'une femme d'une culture hyper pauvre comme la mienne, je connais qu'est-ce que c'est ma mère et ma grand-mère et c'est tout, je connais pas grand chose. Ça m'a laissé poser des questions et aller chercher un peu loin pour avoir des réponses.
Et vous découvrez d'ailleurs, après Le Gendarme de Saint-Tropez et les mimiques de Louis de Funès, que vous ne comprenez pas les dialogues en français à l'époque, vous appréciez simplement le jeu d'acteur et son expressivité. Vous découvrez après Spice World des Spice Girls, en effet, tout un pan et tout une perspective du cinéma avec ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. Et vous êtes bouleversé de découvrir, écrivez-vous, que les films n'ont pas forcément de fin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
C'est vrai, j'ai trouvé toujours... Parce que, je sais pas, pour moi, j'ai regardé en parallèle les films indiens. Et les films indiens, toujours ça dure entre 2h30 jusqu'à 4h le film. Et toujours à la fin, on est tout heureux, tu vois, tout va bien. Et dans le cinéma français, c'était un petit peu compliqué parce qu'à la fin, c'est pas forcément, ils sont ensemble, c'est pas forcément tout va bien, c'était bizarre.
Il n'y a pas de résolution.
Voilà, c'était un peu bizarre pour moi. Il faut tout va bien à la fin, pourquoi les gens ne sont pas ensemble?
Vous parlez, entre autres, du cinéma de Radu Milanéou, Va, vie et deviens, qui vous a marqué, et de ces films effectivement qui ouvrent le cerveau. Qu'est-ce qu'ils ont ouvert chez vous?
Derrière moi, il y a un autre film qui est, pour moi, c'est le même niveau de Va, vie et deviens. C'est un film qui s'appelle Mon fils, que j'ai trouvé par hasard à travers Dominique Bisnard. C'est un film aussi qui m'a beaucoup marqué parce que ça parle de la même chose. C'est l'amour qui n'a pas de frontières. C'est le respect et l'amour entre juifs et musulmans. Ça veut dire quand l'amour, elle vient, il ne va pas te demander est-ce que tu es un chrétien ou un juif ou un arabe pour que je tombe amoureuse ou pas. et aussi la simplicité des gens, et soit juifs, israéliens, soit les palestiniens, l'amour et la paix qu'il y a entre ce monde. Et voilà, c'est le jeune homme, il va de rien pour aller vivre dans une famille pareille, qu'il prend soin de lui. Et là, on oublie carrément la religion, on oublie toute la saleté qui est aujourd'hui dans le monde, et on trouve un humain entre un humain. J'adore ce genre de films qui parlent de ça. On a besoin de beaucoup pour le monde arabe aujourd'hui, des films pareils. Vraiment, on a besoin. Parce qu'en parallèle, il y a beaucoup de chaînes de télévision qui, 24 heures sur 24, il y a des imams à mettre de la haine, à mettre des choses pas vraies dans le cerveau des enfants. Et malheureusement, il y a l'Arabie Saoudite et Qatar qui financent ces chaînes. C'est beaucoup d'argent. Ça veut dire, même s'il y a des jeunes qui font des courts-métrages une fois par an, des choses, ça bouge pas vraiment autant qu'on souhaitait, parce que le marché des barbus aujourd'hui, c'est très grands, ils ont beaucoup de chaînes, ils ont une voix, ils ont beaucoup de finances, et c'est vraiment, c'est très mal.
Et cette haine, cette violence qui est financée et qui est diffusée sur ces canaux, en particulier dans les sociétés des pays arabo-musulmans, mais pas seulement, une de ses conséquences, c'est, on en parlait dans la première partie de cette émission, que les femmes sont toutes considérées comme des putes. Les putes, c'est le surnom, c'est le nom des actrices dans l'enfance de Lubna Abidar, on le disait tout à l'heure, parce que votre grand-mère disait pute pour dire actrice, et vous révélez d'une certaine façon dans ce livre avec Marion Van Rentergem, pourquoi est-ce qu'on a si peur des actrices, c'est parce qu'elles sont fortes. Mais attention, leur force, c'est pas seulement d'être riche, célèbre, c'est d'avoir peut-être, Marion Van Rentergem, le pouvoir de dire et de montrer à tous ce que c'est que être une femme, la condition des femmes.
Oui, il y a, je pense que dans, parce que c'est vrai que il y a quelque chose qui m'a intrigué, qui a sûrement intrigué beaucoup de gens, c'est pourquoi Much Loved a créé cette indignation au Maroc. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont censuré avant même de l'avoir vu? Et pourquoi Lubna Abidar s'est fait agresser pour avoir joué le rôle d'une prostituée?
Il faut juste rappeler là, par exemple, qu'il y a une scène de volleyball où les gens sont un tout petit peu dénudés, oui, dans Camping 3, qui a été quasiment interdite. C'est interdit aux moins de 16 ans. Hein, voilà.
Oui, mais donc il y a la nudité. Il y a la prostitution qui fait qu'on franchit un tabou, puisque soi-disant, officiellement, il n'y a pas de prostituée, ça n'existe pas, alors qu'on sait que ça grouille partout. Mais je pense que ce qui a le plus choqué, c'est la manière dont elle oblige les hommes à se regarder en face et à regarder leur vilenie et l'absurdité de leur... De la manipulation politique qu'ils ont mise en place pour dominer les femmes. Je pense que c'est ça qu'ils ne supportent pas. Et j'avoue que moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionnée chez Lubna, c'est quand même avec l'enfance et la vie qu'elle a eue, les souffrances qu'elle a endurées, ce milieu quand même extrêmement... j'ai été les voir, sa famille, il y a des gens charmants, sa mère est quelqu'un de délicieux, ses frères et sœurs aussi, mais malgré tout, très enfermée dans l'obscurantisme. Et pourquoi cette fille qui aurait pu être totalement écrasée, soit finir dans la drogue, soit être stupide, comment elle a fait pour ouvrir les yeux, pour se rendre compte que les Juifs, ce n'était pas ce qu'on disait à la maison, parce qu'on racontait chez elle ce qu'on raconte dans tout le monde arabe. C'est-à-dire que les Juifs sont des pourris, des gens forcément très riches et forcément très malhonnêtes, etc.
Avec des hiérarchies entre les bons et les mauvais, les pires étant ceux qui habitent en Israël.
Voilà, c'est ça qu'on découvre. Enfin, tous ces clichés qui sont encore d'ailleurs extrêmement vivaces, évidemment, dans le monde arabe, et qui expliquent beaucoup des horreurs et des stupidités des géopolitiques aujourd'hui. Comment a-t-elle eu la force, dès l'enfance, d'ouvrir les yeux, d'être capable de remettre en question les préjugés? C'est vraiment là qu'elle est, elle est tout à fait exceptionnelle.
Mais alors justement, comment?
Bah oui, Lubna Abidar.
On a envie de savoir. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes autorisée à ce destin exceptionnel?
Une piste, peut-être, vous dites qu'après coup, en regardant Much Love, vous dites que vous avez toujours été, finalement, cette petite fille pas d'accord.
Ce monstre.
Oui, elle est dangereuse. Non, mais j'étais pas d'accord. J'étais peut-être trop frappée. La première fois que j'ai pensé à ça, c'était pas mon père, c'était mon oncle qui était en train de me frapper. C'était à cause d'un verre de café. Je voulais mettre le café. Peut-être j'y mettais trop.
Ah, tu me l'as pas raconté, celle-là, tiens.
Ouais, mais c'est pas grave. Ce sont des choses comme ça. C'est parce que pour nous, on a pris l'habitude. C'est normal. Elle était en train de me frapper, alors je me disais, bon, dans toute façon, on est frappé. Le moment qu'il me frappe, je parle. ça va l'énerver, ça va me frapper plus, mais quand même, je parle, je suis frappée. Depuis ce jour-là, je parle. Voilà.
Zoé, vous revenez pour le disque du jour. Mmh. Alors, sera-t-il plein de tendresse?
Il est plein de sensualité, on va dire. Donc, on peut dire que ça peut être...
Et de circonstances.
De circonstances. C'est le deuxième EP d'un jeune producteur au charme puissant qui, en tout cas, à 25 ans, commence à séduire les foules. Il s'appelle Quasi Lambiste, c'est ça son producteur. Mais en réalité, dans le civil, il s'appelle Arthur Dubrin. C'est un jeune producteur originaire de Montpellier, formé au piano classique, mais qui s'est mis à mixer... Dit-il parce que Montpellier, c'est une ville un peu chiante. Tout seul chez lui, il a fini par accoucher d'un genre à lui, une forme de pop électro assez lascive et assez élégante. Il le dit, il n'a aucun message à faire parler dans à faire passer dans sa musique, si ce n'est une sensation, sensation chaude, à en croire ce nouvel EP, qui s'appelle « On You », qu'on pourrait traduire par « Sur toi ».
On you, my feelings have been hurt. On you, don't you see the clouds coming down? With me on my finger now, throw me by the window. I traveled in the sunshine. Don't you see the clouds coming down? With me on my finger now, throw me by the window. I traveled in the sunshine.
Découvrir depuis le 20 mai sur les plateformes de streaming dans un clip brûlant où il est torse nu dans un désert espagnol. Vous pouvez aller voir sur les internets, mais aussi il est dans la dernière compilation des Un Rock, la compilation printemps-été 2016.
Merci Zoé. Heureusement, sur les internets, on s'est déchaîné en proposant des morceaux coupés, tronqués et remontés de Much Loved. Mais précisément, j'espère qu'un certain nombre de Marocaines et de Marocains, malgré la censure, ont pu voir le film pour de vrai, puisqu'il aurait circulé sous le manteau.
C'est Much Loved de Nabil Ayouch, avec Loubna Vidar qui est avec nous.
et on peut découvrir aussi l'ampleur de votre expérience dans La Dangereuse avec Marion Van Rentergem. Vous vouliez dire un mot justement pour conclure?
Non, je disais que l'importance d'une femme comme Loubna, c'est que ce que j'ai pu constater en l'accompagnant à Marrakech, où elle fréquente, elle vient elle-même d'un milieu très traditionnaliste. L'un de ses amis, Adil, qui est en scène dans le livre, qui est lui-même issu d'un milieu traditionnaliste, mais comme il habite Casablanca, qu'il a fait des études, etc., il en sort un petit peu, mais malgré tout, il est rattrapé par son milieu. Et j'ai parlé et avec Adil et avec sa mère, et on sent des gens un peu en bascule entre deux mondes et qui sont ébranlés par l'exemple de Loubnas. Sa mère elle-même, qui à la fois désapprouve totalement qu'elle ait joué dans ce film, me disait en même temps c'est bien pour elle, je suis contente qu'elle aille en France, etc. Et Adil, tout en disant ça me choque que tu aies joué dans ce film, est quand même perturbée en se disant mais j'aime ta liberté et tout ça. Et je me dis qu'au-delà de tous les discours dont on est très friand en France sur le voile, la laïcité, l'exemple de cette femme libre qu'est Loubna est extrêmement important.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Merci beaucoup à toutes deux. Donc vous co-signez Loubna Abidar et Marion Van Rentergem. La dangereuse, alors ça se dit comment? Qatar?
Khatar.
Abidar.
Abidar. C'est chez Stock.
Le ping-pong est un exemple radiophonique, ou pas d'ailleurs, qui se construit en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction Aïssatou Ndoye, Hélène Delier et Mathilde Cadreau, à la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau, à la prise de son ce soir Alex Dong et Myriam Guillot.
Mais quand sera-t-il Mathilde pour notre fièvre du vendredi?
Alors demain nous serons avec un griot caribéen, anglo-caribéen, Anthony Joseph, et un journaliste anglais et mélomane, Duncan. Nous serons du côté de la Grande-Bretagne, donc où la campagne autour du référendum sur la sortie ou non de l'Europe, le Brexit, a été suspendue, je le rappelle, après le meurtre d'une députée du Parti travailliste.